Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident, ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis. Je t'inquiète pas.
Bonjour mon oncle.
Tancred.
Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères.
Nadia ! Nadia, arrête-toi !
Non, laisse-moi !
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Je vous préviens que moi, on ne me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
Ah, c'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo.
Delon en 9 épisodes.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez, vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondial ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Premier épisode, Delon avant Delon.
Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire à vous, Alain Delon ?
Alors, je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble.
L'homme ému et émouvant, qui répondait ainsi à Bernard Pivot à la fin d'une émission qui lui était intégralement consacrée, c'est Alain Delon. Sa disparition en août dernier a provoqué une vague d'émotions à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Bien différente de celle vécue au moment de la mort de Jean-Paul Belmondo, elle fut tout aussi profonde, mais moins chaleureuse. Comme si la fin du samouraï sonnait définitivement le glas d'un certain cinéma français, ou plus précisément d'une époque, puisque Delon, ce fut tout à la fois Melville et Lautner, Visconti et Verneuil, Lozay et De Rey, Godard et Béachel. Alors de quoi Delon a-t-il été le nom durant toutes ces années ? Lui qui sut à la toute fin manier l'autodérision et l'ironie comme personne, ou comme ce César taillé sur mesure dans Astérix et les Jeux Olympiques, et qui est comme un condensé des rôles iconiques de Delon.
César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avez-moi.
Alors, à la première ou à la troisième personne du singulier, qui mieux que Delon pour parler de lui, comme il le faisait presque impudique chez Pivot ? Il sera donc le fil conducteur de cette série, Delon par Delon, et que des cinéastes, des philosophes, des écrivains, des journalistes viendront également éclairer de leurs témoignages et de leur regard singulier sur cet acteur aussi lumineux qu'opaque. Delon par Delon et quelques autres. C'est donc parti. Tant mieux si au bout du compte, nous aurons réussi à percer un peu le mystère d'une beauté qui a toujours, et très paradoxalement, posé problème.
Moi, je suis toujours l'enfant que j'ai été. Et je crois que le secret dans la vie, c'est de rester l'enfant qu'on a été et d'être toujours l'enfant qu'on est, parce qu'on est tous des enfants jusqu'à la fin. Alors, si vous voulez, quand on a compris ça, c'est là, si vous voulez, où les repères deviennent difficiles. Parce que moi, je crois que toute ma vie, quelque part, être ce que je suis, être Delon, être l'acteur et le personnage que je suis devenu, tout ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on croit de moi et que je ne suis pas. Alors, il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite et il faut que j'y reste et que j'y sois. Il faut le jouer, il faut l'être, il faut le rester et le demeurer. Parce qu'ils le veulent, parce que vous le voulez aussi un peu, et puis parce que c'est la loi. Mais c'est un jeu. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, Delon, et c'est là où peut-être les non-imbéciles qui ne sont pas légion vont comprendre que je ne parle pas de moi à la troisième personne, mais que je parle de Delon comme je parlerai d'un autre, c'est là que Delon perd ses repères. Parce que je ne sais plus très bien où j'en suis, parce qu'il ne sait plus très bien où il en est, parce que arrive un moment où ça le dépasse, que la machine le dépasse, il faut qu'il court pour rattraper la machine et pour dépasser la machine, alors que dans le fond, il est quoi? Je crois qu'on joue à l'homme, comme on joue à l'acteur, mais que la vérité, c'est ce qu'on a été en début de sa vie, dans sa petite enfance, tout est là.
Tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, Delon n'a cessé de parler de son enfance, à la fois comme d'un paradis perdu et comme d'un purgatoire rejeté. Avec la fracture ouverte et manifestement jamais refermée du divorce de ses parents, alors qu'il n'a que 4 ans. On en revient toujours à la réponse faite à Bernard Pivot ou aux confidences recueillies au micro de Macha Béranger sur France Inter.
Les souvenirs de l'enfance, de la petite enfance, je ne veux pas dire de la première, restent gravés profondément à l'intérieur de l'homme ou de la femme. Et donc ça, c'est un fait que ça m'a toujours suivi, et je pense que ça me suivra jusqu'à la fin, et que c'est aussi sûrement une des raisons de certains aspects ou certains traits de mon caractère. C'est un fait.
Oui.
Je veux dire, mais à la fois vient se greffer aussi là-dessus les problèmes d'éducation et les problèmes de contexte familial. Bien, moi, j'étais un enfant, si vous voulez, ce qu'on appelle un enfant de l'amour.
Oui.
Je n'ai pas été, je ne crois pas que j'ai été souhaité ou désiré, mais je suis arrivé et on m'a accepté.
C'est déjà un beau départ d'être un enfant de l'amour.
C'est un très beau départ. Et puis ensuite, si vous voulez, pour des raisons qui les regardaient, mes parents se sont séparés, ont refondé et recréé un foyer chacun de leur côté, ont eu d'autres enfants. Et moi, je suis resté toujours un peu seul, avec ce dont on a besoin quand on est, lorsqu'on grandit, tous les rêves qu'on peut avoir, tous les souhaits qu'on peut avoir de grands frères, de petites sœurs, etc., etc. J'ai toujours été, si vous voulez, un peu en marge.
Oui.
Donc, pas un enfant non plus rejeté, mais un enfant un petit peu pas abandonné dans le sens, je veux dire, pas de l'abandon familial,
un peu frustré,
mais un peu frustré parce que chacun de son côté avait refait sa vie et avait retrouvé un autre foyer. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu entre les deux. Donc, obligatoirement, caractère assez difficile, irascible, voilà.
On aurait dû commencer par là, évidemment. Alain, Fabien, Maurice, Marcel, Delon est né le 8 novembre 1935. À 3h25 du matin, nous dit-on, à Sceaux, en proche banlieue parisienne. Juste à côté de Bourg-la-Reine, la petite commune où travaillent ses parents. Elle, Edith, comme ouvreuse de cinéma, le Regina, que lui, Fabien, dirige. C'est une petite salle de quartier comme il en existe tant à l'époque. Située en plein centre-ville, avec ses fauteuils rouges et son rideau de scène sur lequel s'inscrivent des publicités pour les commerces locaux. 30 ans plus tard, au début des années 60, rien n'avait vraiment changé. Et je peux vous l'assurer, car je suis né à Bourg-la-Reine.
Regardez, il essaye de se mettre sur ses pattes.
Et j'ai connu mes premiers émois cinéphiles au Regina, justement.
Au fait, vous allez l'appeler comment?
Eh bien, je crois que ce sera Bambi.
Bambi? Oui, ça lui ira très très bien.
Entre Bambi et Chaplin. Comme j'ai connu, non loin du cinéma, la pharmacie Martin Lavigne, qui existe d'ailleurs toujours, et la charcuterie Boulogne, qui a disparu depuis belle lurette. Les deux commerces précisément dans lesquels la mère de Delon a aussi travaillé avant et après l'Origina. Ce dernier a disparu, lui, depuis longtemps. Bon, assez parlé de moi, et pour ce premier épisode, celui des origines, un titre s'impose donc, Delon, avant Delon. Un enfant terrible est un enfant terriblement malheureux. Cette citation de Kurt Goldstein, un neuropsychologue allemand, a Alain Delon l'a mise en exergue du catalogue d'une rétrospective qui lui était consacrée aux États-Unis. C'est cet enfant que Delon évoque au micro d'Eva Bétan en 1996.
C'est moi qui ai souhaité cette phrase et cette photo, parce qu'on m'a toujours demandé mais d'où ça venait, cette espèce de caractère que vous avez aux difficultés d'être. J'ai dit parce que ça vient, tout vient de la petite enfance. Et suivant l'enfance que vous avez eue, vous le traînez tout votre parcours et toute votre vie. Et je dis, lorsque on me disait toujours, mais vous étiez un enfant terrible lorsque vous étiez jeune. J'ai dit, oui, j'étais un enfant terrible, certes, certes, mais pourquoi l'étais-je? En général, on ne vous demande pas pourquoi vous êtes un enfant terrible. On ne cherche pas à savoir pourquoi un enfant est terrible. Pourquoi on n'a jamais demandé à ses enfants, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi vous êtes terrible comme ça? Pourquoi vous cassez tout? Moi, je cassais tout. On me disait tout, mais pourquoi tu casses tout? Je dis, parce que je suis malheureux, c'est tout. Mais ça, on vous le demande pas. Et on attend que vous cassiez tout pour se dire, mais pourquoi ils cassent tout? Demandez-le avant. Essayez qu'ils ne soient pas malheureux et ils casseront pas tout.
Il a donc fallu la brisure ineffaçable d'un divorce pour que les souvenirs d'enfance de Delon deviennent de plus en plus sombres au fil des entretiens. Tout avait pourtant si bien commencé. Imaginez le petit Alain, encore tout bébé, que sa mère, Edith, promène dans les somptueuses allées du parc de Sceaux, à deux pas du domicile familial. Elle a fini par poser sur le landau un petit écriteau à destination des passants qui s'extasient. « Regardez-moi, mais ne me touchez pas !» Cela, Delon l'apprendra plus tard. Mais comment voulez-vous ensuite qu'il n'y ait pas un problème avec la beauté, selon la belle expression de l'écrivain Jean-Marc Parisi, que l'on écoute maintenant évoquer justement cette enfance.
C'est le petit enfant qui parle. C'est comme quand il est très tard dans sa vie. Vous savez, moi, je serais toujours le petit garçon qui jouait dans la cour de prison de Fresnes, en fait. La séparation avec ses parents, enfin, la séparation de ses parents, ça a été terrible. Il faut quand même, et même la séparation opérée par sa mère. Parce qu'il faut quand même bien voir que sa mère, qui tient la charcuterie à Bourg-la-Reine, ne trouve rien de mieux que de le mettre en nourrice à Fresnes.
Oui.
Quand vous mesurez la distance entre Bourg-la-Reine et Fresnes, je crois que ça fait même pas 10 kilomètres.
Non, non.
Même pas. Et elle n'allait pas le voir toutes les semaines. Il y a quand même quelque chose de dur, quoi. Vraiment quelque chose de dur.
Très dur.
Durant cette même enfance, entre deux familles, il a vécu des réalités plus dures encore. Comme ce récit qu'il a fait de l'exécution de Pierre Laval, alors que lui n'est encore qu'un gamin qui joue au ballon dans une cour de la prison de Fresnes.
Comme ma mère avait du mal à assumer à la fois sa profession de préparatrice en pharmacie et de s'occuper de son fils, elle m'avait mis, puisqu'elle avait la garde de son fils, elle m'avait mis en nourrice. Et j'étais dans une famille, donc, en nourrice à Fresnes. Et c'est une maison qui était rue de la Terrasse, à 50 mètres de la prison. Et la prison de Fresnes, à l'époque, c'était la campagne. Hein, c'était pas comme maintenant. Il y avait la prison, puis autour, il y avait les champs, puis il y avait juste cette rue principale qui montait vers Fresnes. Et moi, j'habitais là. Et donc, j'ai passé toute ma petite enfance dans la cour de la prison de Fresnes avec les enfants des gardiens de prison. Et je peux pas vous dire exactement le jour, la date et l'heure, mais je me souviens, parce que j'avais avoir 5-6 ans. Et un matin, donc, on savait, parce que les enfants écoutent les grands, et les grands parlent toujours devant les enfants comme s'ils étaient sourds et muets, bien sûr. Donc, on savait que Laval, etc., et qu'il a été exécuté. Alors, le jour est arrivé, la veille est arrivée, puis c'est demain matin, 6 heures, etc. Alors, c'était le grand rendez-vous, c'était pas le spectacle, puisqu'on ne voyait rien, mais c'était... On a entendu donc la salve qui a tué Laval, et puis après, les commentaires. Alors, il était empoisonné, on l'a traîné, on l'a attaché sur sa chaise, c'était affreux, on l'a tué comme ça, etc., etc. Là, c'est pas des images, mais c'est du sonore, si vous voulez, qui me reste de cette époque, de mon époque cour de prison de Fresnes.
C'est cet Alain Delon-là qui, à 14 ans, alors qu'en raison de son indiscipline chronique de cancre, il écluse les pensions et les collèges des alentours, c'est lui qui décide de fuguer avec un de ses copains de classe. Destination, l'Amérique.
Je suis parti en Amérique aussi, puisque je voulais aller... Je me suis sauvé de l'école. De Saint-Nicolas d'Igny avec un copain, Daniel Salvadé. Ça a valu d'ailleurs, c'est mon heure de gloire, puisque les bons pères ont été cassés, envoyés du collège, parce qu'ils sont aperçus simplement 15 jours après qu'on avait disparu. Alors c'était pas mal. Pour les parents, ça fait bien. Et puis on n'a pas été à Chicago, bien sûr, on a été arrêté avant, on a été arrêté à Châtellerault, une semaine après. Et moi, je n'ai jamais réintégré le collège d'ailleurs.
Mais si c'était un souvenir de cinéma qui avait guidé les deux petits fugueurs, et si Origina, le cinéma paternel, l'ado Delon avait découvert le film de Christian Jacques, Les Disparus de Saint-Agile, lors d'une ressortie. Ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais après tout, le cinéma existait dans la vie de Delon bien avant qu'il ne devienne acteur. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'il y aurait entendu, dans la bouche de la bande des Chiches Capons, bien décidée, elle aussi, à s'exiler aux États-Unis pour y faire fortune, évidemment.
Je vais lire. Rapport concernant l'activité secrète de la société dite les Chiches Capons. Statut. Article 1er. Cette société a pour but d'étudier et d'organiser le départ de ses membres pour les États-Unis d'Amérique. Article 2. La société compte actuellement 3 membres. Nous allons procéder à l'appel. Numéro 1. Présent. Numéro 2.
Présent.
Numéro 3.
Présent.
Je continue. Les réunions secrètes se tiendront hebdomadairement et de nuit dans la classe des sciences naturelles, sous la présidence d'honneur de Martin Skelet. Article 4. Les membres ont pris formellement l'engagement de ne pas partir pour l'Amérique les uns sans les autres.
Oh non, je vous l'ai déjà dit, je suis pas d'accord. Je veux qu'on enlève cet article.
Ah, il est trop tard, mon vieux, t'es lié par le serment.
Oh, et avec ça, si tu pouvais partir tout seul, tu ne laisserais pas tomber?
Non, je partirais avec vous, pas du tout.
On dit ça.
Est-ce que je peux relire les dernières notes?
Et bien sûr, oui.
Ah, quelle compagnie de navigation choisir? B. Comment faire pour s'embarquer? C. Que faire une fois débarqué sur le sol de la libre Amérique? D. Ne pas oublier de potasser le catalogue des armes et cycles de Saint-Étienne. E.
Marche.
C'est à cette même période qu'un ami de son père, Olivier Bourguignon, lui fait jouer son premier rôle dans un très très court métrage, muet, intitulé Le Rapt. En regardant aujourd'hui ce film d'amateur, on découvre, sidéré, la future silhouette iconique du samouraï. Un imper, un feutre, un revolver et un corps qui tombe. Comme si Melville avait vu ce film avant de filmer Delon. Comme si, même adolescent, Delon était déjà la future star. On ne peut qu'être amusé, mais aussi troublé par cette préfiguration aisément visible sur Internet. Et puis arrive le moment où il faut quitter l'enfance et l'adolescence. Et Delon choisit de le faire radicalement en s'engageant dans l'armée, avec en ligne de mire l'Indochine, comme il l'a raconté au micro d'André Asseo sur France Inter.
J'ai quitté la France pour m'engager dans l'armée pendant... J'ai pris un engagement de 5 ans. J'avais la volonté de partir pour l'Indochine, simplement parce que j'étais bien avec mes copains, et quand on est dans l'armée à 18 ans, on a envie de se suivre et de rester ensemble. Donc j'ai fait un supplément d'engagement, parce qu'il fait 3 ans pour le territoire français et 5 ans pour la demande de campagne. Donc c'était à la fois un souci de liberté, un souci de surtout quitter le foyer familial. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'étais livré à moi-même, livré dans cette vie d'homme, puisque lorsqu'on se retrouve à 18 ans et demi en Indochine, pas pour y faire du bronzage, mais pour y faire la guerre, on a à la fois des responsabilités d'homme, mais à 18 ans, on est bon à tenir un livre et pas un fusil. Bon. Mais, je veux dire, je l'ai compris par la suite, tout dans la vie est une question de choix, tel était mon choix, et je l'ai assumé parfaitement. Et je crois que ce passage dans l'armée française a été très décisif pour la suite de ma vie et donc de ma carrière.
Avant le cinéma pour de bon, il y eut donc l'armée pour de vrai au micro de Laure Adler sur France Inter. Le temps a passé. Delon en est alors au crépuscule de sa vie, mais les souvenirs, eux, sont intacts.
Je me suis engagé en octobre, le jour de mes 17 ans, en 1952, et je suis parti le 23 janvier 1953. dans l'armée. J'ai fait ma formation à Toulon, à Pont-Aven d'abord, à côté de Rennes, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis un an après, je suis parti en Indochine. Et c'était le bonheur.
Mais pourquoi le bonheur ?
Mais parce que j'étais ce que je voulais être, on me foutait la paix, j'étais pas entre deux familles, à emmerder tout le monde, en voyant que je gênais tout le monde, et que voilà, c'est tout.
Alors tout n'était pas formidable pendant la guerre d'Indochine, j'imagine qu'il y a eu des moments...
Non, mais on savait pourquoi on était là, je veux dire, c'était pas une surprise. Bon, j'ai des amis qui y sont restés, j'ai des amis qui sont morts, moi j'ai eu la chance de revenir, c'est très bien, mais j'aurais pu y rester aussi. Mais on le savait, quand vous allez faire la guerre, c'est pas pour revenir avec un bouquet de roses, non.
Vous avez eu peur ?
J'ai eu peur quand on était sur les Arroyos. Les Arroyos, c'était les petits fleuves autour de Saïgon qui s'appelaient les Arroyos. Et on était tous là, et je me souviens d'une scène assez extraordinaire. Un jour, on faisait une patrouille sur un Arroyo, et on était une quarantaine, et il y a un de mes copains qui commence à claquer des dents. Il a eu peur. Et d'un seul coup, 50 types dans la route se sont mis à claquer des dents. C'est une image que j'oublierai jamais de ma vie, parce qu'on pouvait être mitraillé à gauche, mitraillé à droite, et être sur ce petit fleuve avec 50 mâchoires qui claquent des dents, c'est une image qu'on n'oublie jamais.
Vous avez vu des morts ?
Bah oui, à la guerre, on voit pas autre chose, hein. Mais ça... Ben, j'ose pas le dire, parce que ça choque toujours beaucoup de gens quelques temps après, ça forme, si vous voulez. Quand on a 17 ans, 18 ans, on voit des choses... Différente de ce qui se passait à Bourg-la-Reine au Parc de Sceaux, à l'Allée Rose.
Et puis il y eut le retour à la vie civile. Et le cinéma comme un accident. Oui, oui, un accident. C'est Delon lui-même qui le dit face à André Asseo, dans l'émission Les Étoiles du cinéma.
J'estime et je considère que dans ce métier-là, je suis un accident, ce que j'appelle un accident. L'accident, c'est quoi ? C'est la jeune fille qui se promène dans les boulevards, Champs-Élysées ou ailleurs, ou le jeune homme auquel un metteur en scène... « Mademoiselle, qui êtes-vous ? Vous êtes exactement le personnage que je cherche. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais je n'ai jamais été fait pour faire du cinéma. Ça n'est pas mon métier. Je n'ai jamais eu envie de le faire. Ça n'est pas ma mentalité. Ça n'est pas ma vue des choses. Je ne suis pas bien dans ce milieu. Depuis 30 ans que je fais ce métier, je n'ai aimé que le mot moteur est coupé, et tout ce qui se passait entre ces deux mots-là. Le reste ne m'intéresse pas. Le reste ne correspond pas à ma personnalité, à mon tempérament, à mon caractère. Vous comprenez ? Je pense que dans la vie, tout dépend du point de départ, quand même. Le point de départ, c'est l'accident. Après, vous faites autre chose. Après, vous comprenez, vous composez, vous travaillez. Parce qu'après, non seulement que je me suis senti dans un poisson dans l'eau, mais après, j'ai eu la passion de ce métier. Je vous dis pas que c'était un accident toute ma vie pendant 90 films. C'était un accident au départ. Je n'ai jamais fait pour faire cela. Mais après, j'étais passionné. Mais passionné pour quoi ? Je vous l'ai dit, passionné pour ce court temps multiplié par 1000 de moteurs et coupés. Passionné par les rencontres exceptionnelles que j'ai faites avec des gens exceptionnels qui étaient des cinéastes. Mais en dehors des cinéastes que j'ai rencontrés, ils s'appellent Visconti, Clément, Antonioni, Lozet, Melville et d'autres, j'ai aussi eu des rencontres dans la vie avec d'autres gens qui ne sont pas des cinéastes. Ceux-là sont cinéastes, les autres sont politiques, les autres sont autre chose. Ce qui compte, c'est les rencontres, c'est ça, c'est les moments qu'on passe avec quelqu'un. Mais c'est tout. Mais au départ, ça a été l'accident. J'aurais très bien pu avoir un accident dans un autre domaine.
Mais derrière le prétendu « accident », il y a eu d'abord une belle gueule, dont on parlera tant, et puis une femme, et même des femmes. Selon l'aveu de Delon en personne, toujours au micro d'André Asseo.
J'ai très vite été pris en main par, en général, des femmes, attirées par cette gueule d'ange et ce qu'il en sortait intérieurement. Et j'ai tout de suite connu, si vous voulez, deux femmes qui ont été très importantes et décisives dans le choix de cette carrière. Ça a été Brigitte Aubert et Michel Cordoue. J'ai aimé les deux d'une façon différente. Et la deuxième qui a été citée, si vous voulez, la première ne voulait pas, je m'en souviens, c'est ses propos, elle en sourira maintenant, ne voulait pas me faire faire ce métier parce qu'elle ne voulait pas me perdre, disait-elle. Quant à la seconde, elle m'a supplié de le faire pour lui faire plaisir. Et je l'ai vraiment fait par amour. Parce qu'elle menait la vie qu'elle menait, qui ne regarde qu'elle, je veux dire, avec son mari de l'époque, qui était Yves Allégret, mon premier metteur en scène, et qui cherchait pour son film « Quand la femme s'en mêle », un personnage, etc. Je convenais absolument à l'idée qu'il avait de ce personnage. Moi, j'étais assez
en porte-à-faux entre cette femme qui voulait que je fasse ce rôle et le metteur en scène. Bon, bref. Et finalement, elle m'a dit, je t'en supplie, il faut que tu le fasses, fais ce métier, tu verras. Hein? Et je lui ai dit, écoute, ça te fait vraiment plaisir que je fasse ce truc. Ben, je le fais. Et voilà.
Et alors, lorsque vous êtes arrivé...
Et ça ne s'est jamais arrêté. Lorsque je suis arrivé, je m'en souviens très très bien, avec une grande précision, c'était avec Sophie Daumier, avenue Victor Hugo, à cette pâtisserie qui, je ne sais plus comment, fait un angle de rue. Et c'était la première scène. Et lors de ma première scène, Yves m'avait dit, voilà, alors t'arrives, la voiture, tu descends, elle reste la petite dans la voiture, tu rentres dans la pâtisserie, tu prends un paquet, tu ressors avec le paquet, et tu dis, sa formule à moi se régaler, elle te répondra, ah, si les copines du lycée me voyaient. Bref, c'était ma première scène, et je me suis tout de suite, comme ça, je ne sais pas pourquoi, senti, mais dans mon élément, comme un poisson dans l'eau. Ça me paraissait simple, évident, aucun clair.
Craque, aucune appréhension.
Rien, sans problème, rien.
C'était quoi? C'était l'inconscience, vous pensez, à ce moment-là?
Non, je crois que c'était... Je crois que Yves m'avait très bien conditionné.
Il
m'avait
Allégret.
Dit, écoute, Yves Allégret m'avait dit, écoute, je te veux tel que tu es. Bouge comme tu bouges, marche comme tu marches, parle comme tu parles, ne cherche à faire rien d'autre que ce que tu es. Je crois que j'ai reçu le message... Et à partir de là, tout a été clair et limpide. Mmh. Parce qu'effectivement, j'ai été ce qu'il voulait. Il m'a dit, je te veux comme tu es.
Voilà. Quelle déclaration.
Ben voilà.
C'était en 57.
C'était en 57.
Ouais. Edwige Feuillère.
J'ai eu la chance dans ce film alors d'avoir Edwige Feuillère, Jean Servais, Bernard Blier, qui restera et est mon parrain de cinéma.
Oh, moi, tu sais, depuis 3 ans.
Hein. Edwige, qui est ma marraine.
La petite a dû te raconter.
Oui, mon beau Félix, j'ai appris.
Il a fait son premier film avec Yves Allégret et j'étais la vedette du film.
Tu vas peut-être te refaire une vie.
Et on m'a montré quelques bouts d'essai de 3 ou 4 jeunes premiers à qui était destiné le rôle du jeune premier. Et immédiatement, quand j'ai eu un choc quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est celui-là. Celui-là et pas un autre. Et c'était tellement évident. Et je dois dire modestement que j'ai souvent eu du flair pour les débutants.
Et je me souviens qu'à cette époque-là, au cours de la fin du film, Edwige a téléphoné à son agent, qui était Olga Horstig. Il lui a dit, Olga, il faut absolument que tu viennes sur ce plateau voir un petit jeune, il faut absolument que tu le prennes avec toi, chez toi. Il est formidable. C'est Edwige qui parle. Et elle avait fait quelques temps, d'ailleurs, après une déclaration dans la fraise sur moi, et elle avait dit, Alain, on n'arrête pas un pur sang dans sa course.
Dans sa course, voilà. Oui.
Le premier film dans lequel ce pur sang s'était lancé s'intitule « Quand la femme s'en mêle » et il est signé Yves Allégret sur un scénario de Charles Spack. Dans le rôle de Jo, un garde du corps qui finira mal. Delon donne la réplique à Sophie Daumier.
Comment c'est déjà votre nom ?
Collet.
Petit rôle sans conséquences ?
Beau petit blab.
Mais belle gueule, regard qui tue, virilité feutrée, flingue à portée de main. Tout y est déjà, ou presque.
Beau petit châssis de course. On se tire. En une heure, on a le temps d'aligner des bornes. On va faire un chrono sur l'autoroute.
Qu'est-ce que c'est un chrono ?
Vous allez comprendre.
Ah, si les filles du lycée me voyaient !
Vous aimez ça, vous, les promenades sentimentales ?
Ben, je pensais que c'était un peu plus lent, mais c'est bien quand même.
Si vous préférez que ce soit plus lent, il n'y a qu'à s'arrêter carrément.
Pas mon vieux.
C'est comme ça.
Chaud, faut être sérieux, il y a du monde.
Plutôt, mais je les emmerde.
Vous croyez que ça peut aller aussi vite que ça ?
Quoi ?
L'amour.
Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je te connais, je sens que c'est plus la même chose.
Quoi ?
Les choses. Et les petites gonzesses, tu sais, d'habitude, je me méfie. Il leur faut de la salade. Moi, je suis pas champion. Causer, c'est pas mon fort.
Moi non plus.
Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Allez, faut qu'on roule, je vais les bloquer.
Un an plus tard à peine, un deuxième rôle pour Delon. Cette fois, c'est sous la direction de Marc Allégret, avec Henri Vidal et Mylène de Montjoux. Sois belle et tais-toi, c'est le titre du film. Bon, Delon n'en est évidemment pas responsable, mais après, quand la femme s'en mêle, on croirait le concours du titre le plus improbable et le plus misogyne.
Alors, je vous le dis.
Delon y incarne un certain Loulou, ami d'un certain Pierrot, qui n'est autre qu'un certain Belmondo, Jean-Paul. Le temps d'un premier duo, bien avant Borsalino. Ils sont jeunes, ils jouent au flipper, et les filles sont au centre de leurs préoccupations.
Passe-moi une cibiche.
Tu te crois en 1935, on dit pas passe-moi une cibiche, on dit refile-moi une pipe.
Ah, je vais noter ça.
Faut se la faire, hein.
Loulou, c'est pour toi.
Oui, passe-le-moi à la cabine.
Oh, je veux jouer, mais j'ai pas d'argent.
Oh, 20 balles maintenant. Attends. Pierrot. Olga, c'est formidable, comment on a fait? Oui, ma punaise.
Mais je me suis pas tirée seule. J'ai promis à ma copine qu'on la planquerait avec nous. Elle a fait tout le travail.
Régulière? Bon, mais pas un mot sur le business, hein. On vient vous chercher.
En scooter? Mais par question. On va se faire retapisser à tous les croisements par les flics. Trouve une tire.
Une chignole? Mais t'es pas un peu dingue, j'en ai pas. Madame veut circuler en binoire.
On pourrait étouffer l'attraction à Raphaël pour une planque ou deux. Raphaël nous doit bien ça, non?
Correct. Bougez pas, je traverse le mur du son et j'arrive. À tout de suite.
Je reviens, hein. Olga est dehors.
Oh, mince.
On dit pas mince, on dit...
Le troisième volet de cette trilogie initiale, et un tantinet macho, s'intitule, comme il se doit ou presque, « Faible femme », et il est signé Michel Boiron. Cette fois, Delon a le premier rôle, celui de Julien, qui, et c'est tout un programme, doit choisir entre trois femmes, incarnées par Pascal Petit, Jacqueline Sassard et Mylène de Montjoux. Et c'est cette dernière que l'on entend dans l'extrait suivant.
Oh, je suis désolée. J'étais au cinéma avec un ami et puis j'ai complètement oublié l'heure.
Mais il était séduisant, votre ami?
Oh, j'ai oublié notre rendez-vous, il fallait qu'il soit pas mal. Il était même très très bien. Allez, Grenadine, je vous prie.
Bien, madame.
Imaginez une sorte de Marlon Brando et Gérard Philippe réunis avec la voix de Pierre Fresnay.
En effet, je suis très touchée que vous ayez laissé tomber cette petite merveille pour un pauvre malheureux de mon espèce.
Sabine, je suis venue chercher mes chocolats, tu veux oublier de me les donner?
C'est à vous, ça. Je suis désolée, j'en ai déjà mangé la moitié.
Oh, ça ne fait rien.
Voulez-vous prendre un verre avec nous?
Non, non, il faut qu'elle rentre. Elle va être en retard au pensionnat.
Au revoir, monsieur. Et merci encore, Sabine, pour notre après-midi. Je me suis drôlement bien amusée.
Au revoir. Alors, c'est elle le mélange de Brando et de Gérard Philippe?
Très drôle.
Vous n'allez pas me faire la tête pour une bêtise pareille. Surtout que cette histoire de Marlon Brando m'a fait beaucoup de peine. J'ai un tempérament jaloux et exclusif, je vous préviens.
Quels sont vos autres défauts? Vous feriez mieux de me les dire tout de suite, ça gagnera du temps.
En détail ou dans les grandes lignes?
Les grandes lignes, ça ira.
Eh bien, je suis menteur. Seulement avec les femmes.
Coureur?
Coureur, bien entendu.
Pas sentimental pour un sou?
Terriblement égoïste, paraît-il.
Quand vous serez amoureux de moi, vous serez débarrassé de tous vos défauts. Ce qu'il vous faut à vous, c'est un grand amour.
Je sens que vous allez me faire souffrir.
Ça vous fera le plus grand bien de souffrir un peu.
On pourrait peut-être commencer tout de suite.
Pour être franc, si la filmographie de Delon s'arrêtait là, il n'y aurait pas grand-chose à en dire. Même si l'on y rajoute Christine de Pierre Gaspard 8, tournée au même moment, même si un couple qui deviendra mythique et dont on reparlera fait ici ses premiers pas cinématographiques.
L'amour, ça vient tout doucement. On croit encore jouer et c'est déjà sérieux. C'est ce qui m'est arrivé avec vous, Christine.
Oh non, Franz. C'est mal ce que vous faites.
Qu'est-ce qui est mal?
De dire des bêtises aux filles. Pour leur faire perdre la tête. Pour vous, les officiers, c'est un jeu en passant. Prenez garde, Franz. Car j'ai beau savoir que vous mentez, je suis aussi bête que les autres.
Christine.
Je vous détesterai après.
Vous n'allez pas pleurer quand même?
Ce n'est rien.
Écoutez, Christine, c'est vrai, je vous ai dit n'importe quoi. Mais vous aussi, vous m'avez raconté des histoires tout à l'heure. Alors on est quitte. Je vous propose d'être sincères tous les deux. On se dira la vérité. C'est promis?
C'est promis.
Camarade?
Camarade. À
vous alors de commencer. Dites-moi la vérité sur votre migraine de l'autre jour. Je parie que c'était tout simplement une dame qui vous trottait par la tête. C'est vrai?
C'est vrai. Mais c'est fini. Elle est partie, partie pour toujours. Aujourd'hui, c'est les vacances.
On aura reconnu la partenaire de Delon. Mais la présence de Romy Schneider ne suffit pas à faire de Christine un grand film. Pas plus d'ailleurs que le suivant, Le chemin des écoliers.
Bien voilà.
Certes, Delon y est au premier plan, mais Bourvil et Ventura lui volent littéralement la vedette.
Ma petite maman,
tu nous éclaireras.
Oui, oui, tout de suite.
Ben ne le presse pas trop, les lettres aux parents.
Mais si, je vous promets.
Tu penses à lui donner de l'argent?
Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut?
Bah tu sais, à part mon billet, là-bas, je ne penserai rien.
Oui, je sais rien, mais enfin... J'ai un peu peur que tu ne tombes chez ton ami dans un milieu où l'argent n'a pas tout à fait la même valeur que chez nous.
Tu vas lui gâcher tout son plaisir.
Oh, il en faudrait plus. Donc, combien veux-tu?
Donne-lui 1 000 francs.
Mais maman, c'est beaucoup trop. Je sais pas, mais 500...
Tiens, mon garçon, là, les 1 000 francs demandés. Pas par toi, je t'en donne acte. Par ta mère.
Merci, papa.
Hé, hey, attention, je t'en donne pas 10 sous. Mets-les au moins dans ton portefeuille. Allons.
Ah bah zut, je l'ai laissé dans ma chambre. Bah heureusement. Et voilà. T'es tranquille?
À la bonne heure.
Et maintenant, il faut partir, Antoine.
Ouais, c'est bête, mais ça m'ennuie un peu de vous laisser.
Allons, allons, pas d'attendrissement. Tu pars, nous restons. Ben. Prends le bon air pour toute la famille et amuse-toi bien avec ton ami. Allez, départ.
Bon, ben j'y vais.
Un peu de décision, que diable, tu ne vas pas si loin.
Un avion.
Ah, attention à l'alerte.
Tout de suite, alors je fonce. Au revoir.
Au revoir, mon gars.
Salut, toi.
Ton manteau.
Et à cette époque, Delon doute encore de lui. Comme il le raconte bien des années plus tard à Christine Ockrent dans l'émission « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?»
Je me trouvais, je crois me souvenir que je me trouvais personnellement fadasse, c'est-à-dire mièvre, jeune, trop. Je me trouvais pas assez physiquement viril. C'est-à-dire, je pense, et je crois d'ailleurs, c'est la vérité, que... Surtout lorsque je suis revenu de l'armée, à 22 ans, après 4 ans d'armée, je trouvais qu'il y avait un décalage entre mon physique, duquel je n'étais pas responsable, et ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de moi. C'est-à-dire je trouvais qu'il y avait un décalage entre le soldat que j'avais pu être et le physique que j'avais.
Que vous trouviez trop...
Trop gentil, trop, on dirait aujourd'hui trop minet, on dirait trop... Moi, je dis fadasse parce que je trouvais que ça manquait de virilité, ça manquait de caractère. Ça a été un avantage par la suite, si vous voulez, parce que j'ai, dit-on entre guillemets, vieilli moins vite. Mais je trouve qu'il y avait ce décalage entre la force de caractère que je pouvais avoir à l'intérieur, donc qui était invisible, et l'image que j'en donnais à l'extérieur. Ça m'a quelquefois gêné, ça m'a quelquefois servi ou desservi, mais ça ne me plaisait pas tellement. J'aurais voulu être... beaucoup plus, si vous voulez, comme les camarades qui m'entouraient, qui étaient ressemblés dans le fond, j'aurais voulu ressembler à un vrai soldat. Quoi.
Le coup de tonnerre, ou si vous préférez, le coup de soleil, viendra quelques mois plus tard et fera de Delon une star de cinéma. Mais c'est une autre histoire, celle du prochain épisode, qui nous conduira vers les premiers grands maîtres de Delon, René Clément en tête.
Ah, Delon. Alors, Delon, alors là, était absolument merveilleux. Delon était... Il y avait des oreilles d'éléphant. C'est quand même rare. Mais encore plus grandes, même. Il écoutait avec un soin. Il était entièrement ouvert. Il s'abreuvait de ce de ce que je lui disais, la façon dont je le conduisais. Il a été absolument prodigieux. Et tout ça était un amusement profond.
Je m'en vais. Je suis venu te dire adieu.
De long par de long est un podcast original de France Inter proposé par Laurent Delmas. Et mise en onde par la guépard Audrey Ripouille, avec l'aide de la samouraï Karen Day, de la tulipe noire Laura Dumez, de la professeure Emmanuelle Fournier, de la gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage Basile Bocquer et Nicolas Bonnet. Avec eux, avec nous,
avec moi.